Bonsoir mes frères et sœurs. C'est un bonheur que d'être dans la maison du Seigneur. Vous le croyez? Nous allons ouvrir le Saint-Livre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Et nous allons encore lire un texte où Jésus adresse cette parole à l'histoire, à l'Église, à tout le monde, à tous les siècles, par rapport aux pleurs et aux grincements de dents. Matthieu, chapitre 24, le verset 36. On va lire le verset 35. Dans mon bureau, j'ai plein de vieilles Bibles. Et souvent, quand je les vois, je pense à ce verset 35. Matthieu 24, 35. Parce que nous, on passe. Mais le Saint-Livre, lui, ne passe pas. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Vous avez un jour ouvert la Bible, entendu une prédication, vous avez ouvert la Bible pour la première fois ou la deuxième fois, et vous avez fait comme moi, vous avez lu cette expression dans l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu, elle vient 6 fois et dans Luc, 1 fois. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous vous rappelez la première fois? À quoi vous avez pensé quand vous avez lu ce verset? Vous vous en souvenez? Peut-être vous n'en souvenez pas. Moi, la première fois que j'ai lu ce verset, j'ai dit, il y a un moment donné où ça va être grave. Il y aura des pleurs et des grincements de dents pour une catégorie de chrétiens qui n'auront pas été de vrais disciples. C'est un mal qui a accompagné l'Église au fil des siècles, une quantité d'hommes et de femmes qui étaient chrétiens, qui croyaient en Dieu, qui avaient fait des expériences, mais qui n'avaient jamais accepté Jésus-Christ comme le Seigneur. C'est-à-dire que quand on leur parle de la croix, quand on leur parle de mourir à soi-même, quand on leur parle d'abandonner le monde, c'est déjà un petit peu du charabia pour eux. Les gens, ils aiment Jésus comme sauveur, mais ils ne comprennent pas la profondeur de l'obéissance, la bénédiction de la sainteté, la grandeur du service. Et là, nous voyons une parabole, bien sûr, où Jésus parle de ce que les gens, quand Jésus viendra, ne se douteront de rien. Est-ce que vous pensez que Jésus peut revenir? Est-ce que vous pensez que Jésus peut revenir dans le courant de cette année? Ou est-ce que vous avez des projets qui vous empêchent d'être prêts? Est-ce que Jésus peut revenir cette année? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous dites, oui, je veille, oui, je fais attention, tiens, comment je sers? Comment je sers le Seigneur? Parce qu'en fin de compte, lorsqu'un chrétien rentre dans le royaume, un pécheur rentre dans le royaume de Dieu, lorsque quelqu'un prend le baptême, qu'il se repent et qu'il s'engage, qu'est-ce qu'il devient? une nouvelle créature, il devient un serviteur ou une servante de Dieu. Vous êtes d'accord? Tous les chrétiens deviennent des serviteurs et des servantes. Jésus dira, tu l'adoreras et tu le serviras. Le service peut prendre plein de dimensions. Il y a des services que l'on voit, d'autres que l'on ne voit pas. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que je sois amené à faire ce que je dois faire. Parce que si la Bible parle du salut, la Bible parle également des récompenses. De ce jour, il va falloir passer devant Dieu. D'un côté, il y aura la première résurrection, juste à l'enlèvement de l'Église, où les morts en Christ vont ressusciter. Il y aura la deuxième résurrection des morts, c'est-à-dire des impies, des gens qui n'auront pas voulu de Jésus-Christ, qui seront ressuscités à la fin du millénium pour le jugement dernier. Et là, bien sûr, il n'est pas question de récompense, il est question d'un jugement, d'une tristesse terrible. Et nous participerons à ce jugement. Est-ce que vous savez que nous participerons à ce jugement? Est-ce que c'est écrit? Ouf. Dans la Bible, c'est écrit où? Non, parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent le jugement dernier, c'est écrit. Où c'est écrit? C'est pas vrai. Il faudra que vous ayez un bon pasteur qui vous enseigne. Alors, je crois que c'est écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 6. Il y a deux textes dans les... Vous savez, il y a des questions, ne savez-vous pas? Paul pose souvent ces questions, mais vous ne savez pas. Quelle grâce que Paul avait vraiment reçue. Vous ne croyez pas qu'il avait reçue? Il y a les 12 apôtres qui ont passé 3 ans et demi avec Jésus, à côté de lui, tout le temps. Ils ont reçu 100 fois moins que l'apôtre Paul. Prenez compte. 1 Corinthiens chapitre 6. C'est encourageant parce que c'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'être à côté de Jésus physiquement pour recevoir. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 6. C'est un problème par rapport aux difficultés qu'il y avait entre chrétiens dans l'église. 1 Corinthiens 6, verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Voilà, c'est une question. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, dont les anges déçus, bien sûr, on ne va pas juger les anges qui sont restés fidèles. Ça ne vous dépasse pas un peu ça? Est-ce que vous réalisez ce qui va arriver? Vous voyez, les choses du jugement, ça nous dépasse, ça, peut-être que ça n'intéresse personne, mais quand même, il y a une catégorie de chrétiens qui participeront au jugement des anges déchus et qui participeront au jugement du monde. Ça va être sérieux, ça ne va pas être fait à la légère et n'importe comment. Le jugement, ça va être quelque chose de sérieux. Le jugement des pécheurs. Après nous, il faudra qu'on rende des comptes. Alors c'est pour cela qu'il faut qu'on fasse les choses comme il faut. C'est pour ça que Jésus a donné cette parabole qu'on vient de lire dans Matthieu, à savoir de bien voir les choses. Est-ce que nous voyons? Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, il y a une parabole, moi qui m'a fait beaucoup réfléchir. Elle m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à l'état des églises, le corps de Christ, combien d'églises sont complètement à côté, ne voient pas, par exemple, l'importance de la prière, l'importance du service. Matthieu, chapitre 13, verset 16. Regardez cette parole. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Voilà, un chrétien, il voit. Je ne parle pas de la vue physique, je parle de la vue spirituelle. Je parle de l'ouïe spirituelle. Et pourtant, on voit dans cette parabole, il y a des gens qui ne sont pas intéressés. Il y a des gens, ils écoutent, ils veulent la bénédiction. Regardez, Jésus donne une parabole, chapitre 13, verset 1 à 9. Et puis, il y a une grande foule, dit le verset 2. Vous avez vu, une grande foule. Il y a une grande foule. Bon, paf, la parabole, elle est donnée. Il y a juste des disciples. Oui, les disciples. Pas des apôtres, des disciples. Les disciples s'approchèrent, vous voyez, et ils lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et c'est un peu pareil, aujourd'hui dans les églises, il y a une foule de gens qui écoutent des sermons, ils comprennent sans comprendre, mais ils n'ont pas envie. Tandis qu'il y a une catégorie de gens, peut-être vous ce soir, qui disent, mais moi je veux m'approcher, je veux comprendre. Cette expression, les pleurs et les grincements elle est d'une telle sévérité, je veux savoir pourquoi seulement Jésus a utilisé cette parole aussi sévère, lui qui est plein d'amour, pourquoi Jésus a-t-il utilisé cette expression par rapport au temps où il va revenir chercher les siens? Ceux qui s'approchent, explique-nous. Allez, au verset 12, ça fait pitié. On donnera celui qui a. Et il sera dans l'abondance.
Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça fait... Vous ne trouvez pas que c'est... Et il y a des chrétiens comme ça, ils ont tout perdu, ils n'ont rien. Vous les voyez, ils ont 5 ans de conversion, ce qu'ils auraient pu recevoir ou ce qu'ils avaient en partie reçu, ils n'ont rien. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. En entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette parole d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Béni soient les chrétiens qui comprennent, les chrétiens qui sont sérieux. Il y a déjà, ils comprennent rien. Et nous, quand même, les chrétiens, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devrions avoir une... facilité à comprendre les choses comme nous venons de les dire dans cette parabole. Jésus n'a pas dit ces 7 paroles sévères pour rien. Il les a dit pour que nous nous préparions à le rencontrer et que nous ne servions pas le Seigneur n'importe comment. Vous avez vu le contexte. Dimanche, on a vu le serviteur qui avait accepté l'invitation, mais qui s'est retrouvé aux noces comment ? Vous vous rappelez ? Sans les habits de noces. Vous voyez, les gens qui acceptent l'invitation, c'est bien, ils viennent. Je ne parle pas d'invitation à venir pour la première fois écouter l'évangile. Ils entrent dans l'église, ils se baptisent, mais il faut ce qu'ils veulent. Il faut ce qu'ils veulent. Ce n'est pas Jésus le Seigneur, c'est eux le Seigneur. C'est pas le psaume berger, il devrait le reformater. Je suis le berger, le Seigneur, mon mouton. Ah mais vous pouvez rire, mais je peux vous dire que c'est exactement comme ça que certains chrétiens fonctionnent. C'est eux qui décident. Ce qu'ils doivent faire, s'ils doivent aller aux réunions, s'ils doivent aller au culte, c'est eux qui décident tout. Et tout est comme ça. Je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît. Si vous preniez le temps de regarder les premiers commandements dans la Bible sataniste, vous trouveriez que c'est exactement ça. Chacun fait ce qui lui plaît. C'est le premier commandement dans la Bible satanique. Je fais ce que je veux. Et je peux vous dire qu'il y a des chrétiens qui en sont là. Un chrétien, il ne fait pas ce qu'il veut. Un chrétien, il fait ce que Dieu veut. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu me demandes de veiller, ça fait 4 ou 5 fois que je viens dans cette église, tu me rappelles l'importance de veiller, est-ce que je veille ? Comment je lis ma Bible ? Est-ce que je la lis pour la lire ? Est-ce que je prie pour prier ? Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose de joyeux, de spontané, d'heureux ? Le Seigneur a donné cette parabole, les gens ne se douteront de rien, ça sera pareil. Le Seigneur va revenir chercher l'église, il y a plein de chrétiens qui ne sont pas prêts, ils vont se retrouver dans les pleurs et dans les grincements dedans, alors qu'ils auront entendu et le Saint-Esprit aura parlé, parce que Dieu dans son amour n'arrête pas de nous parler, sa patience est notre salut, heureusement que Dieu est patient, mais la patience elle va s'arrêter. Et nous devons nous poser la question. Alors le contexte, on en a parlé dimanche pour la parabole du festin des noces, c'était l'habit de noces. Le gars, il était rentré sans la sanctification. Il y a des gens, ils pensent qu'ils sont dans le royaume et ils pensent parce qu'ils vont à l'église qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils sont d'accord avec un sermon. Ne vous imaginez pas, parce que vous êtes d'accord avec le sermon, que vous êtes dans la communion avec Dieu. Il vous faut dire non, j'obéis. J'obéis. Ce soir, le contexte, c'est quoi ? Le contexte, alors à qui Jésus s'adresse ? Il s'adresse à des hypocrites. L'hypocrisie, qu'est-ce que c'est l'hypocrisie ? Je continue ? Je peux continuer ? D'accord. L'hypocrisie, qu'est-ce que c'est l'hypocrisie ? Je l'ai marqué, la définition du dictionnaire. Attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables. Comédien, ça s'appelle en français. Ça c'est moi qui l'ajoute, c'était pas écrit, mais c'est ça. Affecté des sentiments, des affections, des vertus qu'on n'a pas. Action, parole destinée à tromper par des sentiments. C'est-à-dire, je donne l'image de quelqu'un que je ne suis pas, du cinéma. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes extrêmement surpris du nombre de fois où le Seigneur parle des hypocrites. Je vous ai dit qu'il y avait 7 fois le mot heureux dans l'Apocalypse, 13 fois le mot malheur. J'ai regardé dans le Nouveau Testament combien de fois il y avait le mot hypocrite. 15 fois. 15 fois il y a le mot hypocrite. 18 fois, pardon. 18 fois le mot hypocrite. Et en principe, le Seigneur Jésus s'est surtout adressé aux serviteurs. Dans Matthieu 13. 13. C'est 23, pardon. Dans Matthieu 23, le Seigneur parle au pasteur. Vous savez, Jésus a parlé aux prostituées, aux publicains. Vous avez vu la façon dont le Seigneur Jésus parle aux gens? Comment vous trouvez qu'il parle aux gens? Vous avez vu comment le Seigneur a été plein de bonté pour les gens? C'est quand même, chaque fois, cette pédagogie. Il n'a pas parlé à Nicodème, il a parlé d'une façon, parce qu'il connaissait la parole. À la Samaritaine, il y a parlé d'une autre façon, etc. Le Seigneur parle avec une grande, grande pédagogie. Au pasteur, j'ai remarqué que la pédagogie, elle est un peu plus vissée. Ouais. Matthieu 23, mais ça vaut la peine de le lire. Mes frères, vous savez, c'est pour les pasteurs, mais c'est aussi pour tous les serviteurs. Matthieu 23, du verset 13 au verset 33, je peux vous assurer que les pasteurs, ils sont à la fête. Hein. Vraiment. Matthieu 23, verset 13. Il faut quand même le lire, parce que le contexte, c'est l'hypocrisie. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons des hypocrites. Est-ce qu'il peut y avoir des hypocrites dans l'Église? Des gens qui font les malins, qui font semblant d'être spirituels à l'Église, et qui après regardent des saletés, ou sont grossiers. Est-ce que ça peut arriver? Et ça, dans la maison du Seigneur, Dieu ne veut pas de l'hypocrisie. Dieu veut de l'honnêteté. Voilà, des gens sincères. Alors regardez, on va le lire quand même, parce que c'est quand même grave cette affaire. Parce que l'hypocrisie nous empêchera d'être prêts, c'est clair. Matthieu 23, verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » En même temps que je lis, j'essaie de m'imaginer la tête qu'ils devaient faire. Parce que personne ne leur parlait comme ça. Vous vous rendez compte? Personne n'osait parler aux pasteurs, aux pharisiens qui étaient la religion la plus pointue de l'époque, le haut standing de la spiritualité. Le Seigneur Jésus va leur parler de cette façon. Vous vous rendez compte? Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Quand on ne prêche pas la repentance aux gens, qu'est-ce qu'on fait? On leur ferme le royaume des cieux. Si on ne vous a jamais dit dans une église qu'il vous faut vous repentir, vous convertir, abandonner le monde, donner votre cœur à Jésus, l'accepter comme sauveur, l'accepter comme Seigneur, on est des hypocrites. Vous avez eu affaire à des hypocrites. Il y a des gens qui demandent le baptême, mais tu veux prendre le baptême? Eh bien, prends le baptême. Vive le baptême. Ils prennent le baptême, les gens, ils ne se sont même pas convertis. On n'a pas fait des disciples. Jésus dit que ça va mal finir. Verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. En plus, il n'aura pas dit qu'une fois, vous allez voir. Parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, qu'est-ce qu'il dit? Vous serez jugés plus sévèrement. Oui. Les pasteurs, ils vont être jugés sévèrement. Parce qu'ils savent, les pasteurs, la parole de Dieu. Vous faites pour l'apparence de longues prières. Vous voyez le cinéma? Dans tous les domaines, vous voyez, dans la prière, il faisait semblant d'être spirituel pour, vous voyez, pour arnaquer les veuves. Ça, c'est bien, ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre. Alors, en plus, là, il parle au missionnaire. Pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu... Non, mais regardez quand même. J'imagine leur tête. Ils devaient super être contents. Vous en faites un fils de la Géhenne deux fois plus que vous. Vous vous rendez compte, on amène des gens à un système religieux, et quand il est entré dans le système religieux, en fin de compte, il va aller dans les ténèbres. Mais je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on est en train de lire. Pourquoi Jésus a-t-il dit ceci? Il l'a dit pour qu'on fasse archi-attention, à ne pas se faire piéger. Vous voyez, regardez au verset 17, insensé, aveugle, il parlait à des pasteurs, insensé. Est-ce qu'on a le droit de traiter un chrétien d'insensé? Ça m'est arrivé il y a quelque temps de traiter une chrétienne de folle. Sérieusement, on me l'a reproché. Et dans mon cœur, j'avais la paix. Vraiment, j'avais la paix. Et puis, vous savez, quand on lit la Bible, regardez avec moi dans Jérémie. Il y a des choses, on les comprend vite. Hein. Regardez dans Jérémie, alors c'est au chapitre 29. Mais c'est vrai que ça dépend comment on le dit. Et moi, je le lui ai dit pour le bien de son âme. Jérémie 29, verset 26. Regardez ce que Dieu dit. Parce que quand même, dans une église, il faut qu'il y ait de la paix. Non? L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jéhojada, le sacrificateur, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est... Comment vous avez dans votre Bible? Tout homme qui est fou et qui se donne pour prophète afin que tu le mettes en prison et dans les faire. Tout homme qui est fou. Donc il y a des gens qui ont un comportement fou. Nous, on n'appellerait pas fou parce qu'on a peur de blesser, etc. Mais comment il les appelle, Jésus, les vierges qui n'ont pas d'huile? Elles sont folles. Nous, c'est vrai qu'on met des gants, et on a raison, et on a besoin d'avoir de la pédagogie, etc., de la politesse, de la retenue, de la contrainte, etc., de la bienséance, et moi je suis pour tout ça. Mais je crois que quand quelqu'un ne va pas bien, il faut le lui dire. Et Dieu dit que dans sa maison, il avait placé des inspecteurs, dont des, pour nous, aujourd'hui, c'est des anciens, des pasteurs, qui doivent veiller sur la piété des gens. Et si quelqu'un est fou à cause de ses prophéties, il faut le lui dire. Je me souviens combien ma mère avait eu du chagrin, parce que quand ma sœur avait le cancer, ma sœur jumelle avait le cancer, il y avait des gens, le Seigneur m'a dit qu'il allait la guérir, ne vous inquiétez pas Madame Go, le Seigneur va la guérir, Jésus m'a dit qu'il allait la guérir. Et ma mère, des fois, elle m'appelait, j'étais en mission, Gérard, il y a une sœur qui m'a dit ça, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, moi j'en pense, fais attention quand même, mais si, je pense que ça vient de Dieu. Et puis ma sœur, elle est morte. Vous voyez, et ma mère, ben, ça l'a quand même troublée pendant un moment. Et je pense qu'il y a des gens, ils ne se rendent pas compte combien ils ont un comportement fou. C'est fou de faire ça, de tromper les gens. Il vaut mieux dire, écoute, j'espère que ta fille va guérir, je prie pour... Vous voyez, la vérité. Mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas perdre des gens avec ça? Est-ce qu'on peut perdre des gens? Mais oui, et on en a perdu. Des gens, vous voyez, en plus, qui prennent le nom du Seigneur en vain. Ils ne se rendent même pas compte comment ils se mettent en porte-à-faux avec Dieu. Le troisième commandement, c'est... Tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain, car celui qui prend le nom de l'Éternel en vain ne restera pas impuni. En plus, les gens, ils se mettent en braque. Et mais ils s'autorisent à se prendre pour spirituel. C'est sûr que quand on prie pour quelqu'un, la fille, elle est en train de mourir, c'est sûr que ça nous brise le cœur. Mais il vaut mieux dire, tu sais, je prie vraiment que la volonté de Dieu soit faite. Et comme ça, on a perdu des gens. Quand quelqu'un est fou, il faut le lui dire. Après, il y a la façon de le dire. La façon dont je l'avais dit, c'était pas bien. Mais le lendemain, vous voyez, j'ai été demandé pardon pour lui dire, je vous demande pardon pour la façon dont vous je l'ai dit, mais ce que je l'ai dit, je le pense. Les hypocrites, Dieu n'en veut pas. Dieu ne veut pas que nous soyons des hypocrites. Oui, et moi je vous assure, et c'est, ça va beaucoup plus loin, ça, parce que là, il parle d'une manière générale, ils étaient plusieurs. Mais on le voit, vous lirez la suite, vous le lirez, parce que bon, c'est pas le plus intéressant. Quand il dit au verset 32, 33, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Bon, qui c'est qui parle? Qui c'est qui parle au fait? Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, Jésus n'a jamais parlé sévèrement à quelqu'un, pour vous dire si la personne a lu la Bible. Parce qu'une fois, j'avais été dans une prédication peut-être un peu sévère, et elle m'a dit, Monsieur Go, mais pour qui vous vous prenez? Jésus n'a jamais été sévère envers quelqu'un. Je pense qu'il y a des gens qui lisent très très mal la parole de Dieu. Mais Jésus n'a pas été sévère pour être sévère, ou pour être méchant. Jésus a été sévère pour arrêter ses pasteurs qui étaient sur la route de l'enfer. Et c'est vrai que c'est un dilemme. Regardez dans l'évangile de Luc, ça me vient à l'esprit, parce que j'ai eu un jour affaire à une situation compliquée. Dans l'évangile de Luc, alors c'est au chapitre 13. Dans le chapitre 13, Jésus un jour se trouve dans une synagogue. Imaginez, c'est bon, comme une église pour nous, d'accord? Il se trouve dans une église, il y a une femme qui est possédée depuis 18 ans, verset 12. Regardez, c'est important, il faut étudier l'hypocrisie pour qu'on soit vacciné, je vous le dis. Luc chapitre 13, verset 12, « Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. » Qu'est-ce que vous dites?
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Bon, Jésus était dans sa synagogue. Vous me suivez? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Hypocrite. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire, etc. Donc Jésus, là c'est encore plus sévère que Matthieu 23. Parce que dans Matthieu 23, c'est un peu général, il parle à plein de pasteurs. Là, il s'adresse au chef de la synagogue. Il est dans sa synagogue. Et vous savez, je vous dis ça parce que on a besoin de droiture. Dieu aime la sincérité, la vérité. Une fois, ça m'est arrivé de reprendre des pasteurs sévèrement. Et on m'a demandé de m'excuser. Et je leur ai dit, parce que je n'avais pas respecté la déontologie pastorale. Et j'ai dit, eh bien, Jésus aussi. Alors Jésus, il n'a pas respecté la déontologie parce qu'il a traité des pasteurs d'hypocrites dans leur synagogue. Et j'ai dit, mais je ne m'excuserai pas. Ça a fait polémique. Mais moi, je crois qu'à un moment donné, quand on a besoin d'entendre quelque chose, il faut l'entendre. Vous le croyez, mes frères et sœurs ? L'honnêteté, c'est ça. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Et il ne nous le dit pas parce qu'il veut nous ennuyer. La Bible dit, mais considère la bonté et la sévérité de Dieu. Considère-le. Ce soir, on doit pouvoir se dire, mais qu'est-ce que Dieu veut en vérité ? En vérité, le résultat de ça, puisqu'il y a une parabole, tout un enseignement sur l'hypocrisie. Donc Dieu veut que je sois sincère. Dans la maison du Seigneur, Dieu veut des gens vrais. Parce que Dieu compte sur nous. Vous le savez que Dieu compte sur nous. On a un vieux cantique là, Dieu peut-il compter sur nous ? Est-ce que Dieu peut compter sur nous ? Parce que le cinéma, c'est Dieu le supporte pas. On n'a pas joué la comédie. Ce n'est pas dire qu'on doit tout dire, hein. On a son jardin secret, etc. Mais mes frères et sœurs, on doit être vrais. Dans la maison du Seigneur, Dieu attend des gens vrais, pas des gens, vous avez vu, c'est grave. Heureux ce serviteur, voilà, il doit donner du pain. Le pain, c'est la nourriture. La nourriture, c'est comme moi ce soir, je suis chargé de vous nourrir spirituellement. Je dois le faire comme il le faut. Sincèrement, sérieusement, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Dès que vous faites chanter, dès que vous présentez la Sainte Cène, une animatrice à l'école du dimanche qui présente le cours à ses enfants, elle a le devoir de donner du pain, de la nourriture au temps convenable. Nous sommes dans un temps où nous savons que Jésus-Christ va revenir chercher l'Église. Donc au temps où le Seigneur Jésus va revenir chercher l'Église, moi je pense qu'il faut aider les chrétiens à ne pas être des hypocrites. Et à être des gens vrais. Heureux le serviteur qui fera ce que Dieu lui demande. C'est pour ça que notre responsabilité, si vous êtes baptisé ou si vous voulez prendre le baptême, c'est de pouvoir dire, mais qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur ? Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que je dois faire dans ta maison ? Et je vais le faire d'une manière intelligente et joyeuse et vraie. Alléluia. Voilà, ce que je le fais de tout mon cœur. Je vous dis, Dieu ne supporte pas l'hypocrisie. Dieu ne supporte pas le légalisme, Dieu ne supporte pas la dureté, je ne parle pas de sévérité, Dieu ne supporte pas la dureté, le Seigneur a été très sévère, il n'a jamais été dur. Et voyez un méchant serviteur, c'est quoi un méchant serviteur ? Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons. Vous savez qu'on peut faire du mal ? Est-ce qu'on peut faire du mal avec la langue ? Est-ce qu'on vous a déjà fait du mal ? À qui on n'a jamais fait de mal avec une parole ? Levez la main. On peut faire du mal avec la langue. Et on peut le faire involontairement, mais on peut le faire volontairement. Du temps de Jérémie, je ne sais pas pourquoi, ils n'appréciaient pas trop son ministère, et ils se sont concertés, et ils ont dit, tuons-le avec la langue. Nous devons utiliser notre langue pour bénir, pour faire les choses comme il faut. Ces gens-là qui sont hypocrites, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit la Bible ? Qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents pour les gens qui auront fait du cinéma. Dans la maison de Dieu, on ne fait pas du cinéma. On n'en a pas vu des gens faire du cinéma. Vous savez, moi, ça me brise le cœur. Partout où j'ai été, il m'a fallu faire de la discipline dans les églises pour demander à des gens de se retirer de l'assemblée parce que c'était des comédiens. Et s'il y en avait un, je peux vous dire qu'il aurait affaire à moi, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est biblique ? Éloigne de toi, après un premier, un second avertissement, ceux qui causent du trouble parmi vous. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Donc si vous troublez l'Église, laissez-moi vous dire qu'avec les anciens, on se chargera de vous expliquer comment ça doit se passer. Parce que dans une Église, il doit y avoir la paix, oui ou non ? C'est important ça. Et des fois, on me dit rien, on laisse faire. La Bible est catégorique, mes frères et sœurs. Soyons vrais. C'est écrit dans la Bible que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Vous avez vu la suite quand il est dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées ? Est-ce que quelqu'un peut me dire la suite ? Philippiens, chapitre 8. Regardez, Dieu aime que ce soit vrai. Que Dieu soit béni pour les gens qui sont vrais, sincères. D'ailleurs, approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. Sincère, ça veut dire sans cire, sans masque. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, dans la maison du Seigneur, il faut qu'on soit des gens vrais, tous. Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous savez, nos pensées, on peut les dominer, nos pensées. Ce n'est pas à nos pensées à nous promener. C'est à nous à contrôler nos pensées. Tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée, comme David dit dans le psaume 131, « J'ai imposé le calme et le silence à mon âme. » Vous avez là quelqu'un qui utilise son esprit pour maîtriser ses pensées. Parce que les pensées, des fois, elles nous amènent, ça vous est jamais arrivé, des fois, que les pensées vous amènent dans des sentiers un peu bizarres? Oui ou non? Eh bien, c'est à nous de les maîtriser. Et écoutez, c'est pour moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Soit l'objet de vos pensées. Regardez bien la suite. Parce que quand même, c'est ça l'important. Ce que vous avez appris. Bon, ben ce soir, nous apprenons que nous devons être des gens vrais, que Dieu déteste l'hypocrisie. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et la conséquence, elle est où? Et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Ça vous plaît? Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec nous, que Dieu soit dans nos réunions, que lorsque les gens viennent dans nos réunions, ils voient des gens vrais, ils voient des gens sincères, des gens qui s'approchent avec un cœur sincère. Seigneur, je veux être vrai, vrai à la maison, vrai avec mes frères, je veux être tout le temps vrai, Seigneur. Les hypocrites, ils ne vont pas être enlevés. Ne jouez pas à la comédie. S'il y en a, peut-être c'est pour personne ici, parce que franchement, ça, et je le pense, je l'espère. Dans le sens où je sais que des gens m'écoutent sur Internet et que beaucoup de gens peuvent être interpellés. Mais mes frères et sœurs, approchons-nous avec un cœur sincère. Quand on voit Jésus qui a été obligé d'être aussi sévère, c'était pour les arrêter. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont magouillé pour le crucifier. Parce que même s'il fallait, Jésus aurait été crucifié de toute façon, il n'empêche que ça a été facile de trouver des gens pour le pousser. C'était qui? Des hypocrites. Que Dieu nous donne d'être sincères, comme Marie, qui avait besoin de se retrouver au pied du Seigneur. Vous rappelez cette femme à qui Jésus a dit à sa sœur, Marie a choisi la meilleure part. La meilleure part, c'est celle où je suis dans les pieds du Seigneur et je reçois quelque chose et je vais pouvoir le donner. Gloire à Dieu. Vous avez envie de faire du bien? Soyons sincères, l'hypocrisie, ça va nous perdre. L'hypocrisie, ça nous perdra. Donc, on joue pas la comédie, on est vrai. Surtout quand on est seul devant Dieu. Je crois qu'on me dit, Seigneur, tu vois, je suis comme je suis, mais je veux être vrai. Alors, n'utilisez pas cette exhortation pour dire, bon, maintenant, je vais tout dire ce que je pense. C'est pas ça. Non mais il y a des gens, des fois, moi j'ai une fois, je me rappelle, on avait parlé sur la sincérité à l'église, c'était Albi, j'étais jeune pasteur, et on avait parlé sur la sincérité. Puis il y a un gars qui a déversé son cœur, bon ça faisait, il a parlé de trucs intimes, donc c'était un truc de fou, moi j'ai eu honte franchement. Et puis après je lui ai dit, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui regardent personne. Mes frères et sœurs, les gens qui sont vrais, les gens qui sont sincères, eh bien le Seigneur se révélera. Le Seigneur leur parlera. Par sa parole, oh, ils vont veiller. Oui, oui, on est dans des temps où Jésus va revenir. Vous le croyez que Jésus va revenir? Alors soyons prêts, mes frères et sœurs. Parce que je pense que les hypocrites, on l'a lu, ils auront leur part avec ceux qui connaîtront les pleurs et les grincements dedans. Et c'est pas ce qu'on veut. Je pense pas qu'on est dans la maison de Dieu pour un jour s'entendre dire, retire-toi de moi, je te connais pas. Voilà, tu as joué la comédie dans ma maison, tu as fait le malin, tu as fait l'intéressant, je sais pas comment Dieu le dira, mais en fin de compte, c'est comme ça que ça se, le résultat sera le même. Alors mes frères et sœurs, soyons vrais. Alléluia. Que nos pensées soient vraies, que nous venions dans la vérité, que nous aimions la vérité. Ces gens qui disent, je n'ai pas de plus grande joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs. Jésus revient. Jésus revient. Et si vous n'êtes pas prêts, donnez-lui votre cœur. Repentez-vous. Convertissez-vous. Repentez-vous vraiment. Si vous êtes dans le péché, mais faites vraiment un acte de foi ce soir. Seigneur, il faut que je m'humilie. Et le Seigneur, il vous bénira. La porte, elle est ouverte. Il se tient à la porte. Mais laissez-moi vous dire que la porte, elle va bientôt être fermée. On va prier le Seigneur simplement. On va lui demander de l'aide. Vous croyez qu'il va nous aider? Vous croyez que si les pharisiens avaient dit aide-nous, Seigneur, aide-nous, c'est vrai qu'on est des hypocrites, pardon. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Qu'est-ce que Jésus aurait fait?
Eh bien, il aurait pardonné.
Vous voyez, s'ils avaient eu le courage de dire pardon. Notre Père, notre Dieu, jamais nous ne te remercierons assez de nous avoir laissé ta parole. Jamais. Nous sommes bouleversés par la croix, par ton amour à Golgotha, par ton comportement à Gethsémané, pour tout ce que tu as dit. Mais lorsque nous pouvons le relire, quelle bénédiction! Oui, Seigneur, nous considérerons ta bonté, nous considérerons ta sévérité, et nous savons que tu as parlé à ces pharisiens par amour pour les sortir des ténèbres dans lesquelles ils étaient plongés. Seigneur, tu savais parler à une prostituée, tu savais parler à un notable, tu savais parler à un militaire, tu sais comment nous parler. Alors Seigneur, parle à nos cœurs, qu'à nos yeux voient, que nos oreilles entendent tout ce que tu as à nous dire, parce que nous croyons que tu nous parles. Et ce soir, fais que dans cette église, il n'y ait que des gens qui soient sincères, que des gens vrais, que des gens qui sont heureux de te servir, que des gens qui sont heureux d'apporter un service dans l'église, dans la maison de prière. Notre Père, oui, nous voulons être de ces serviteurs heureux, joyeux d'avoir donné en son temps la nourriture que nous avions à donner aux autres avec cœur, Seigneur. Oui, aide-nous jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher à travailler avec cœur, avec sincérité et avec vérité. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et merci pour l'aide que tu nous accorderas. Amen. Car croyez-moi, le Seigneur est notre aide et il nous aidera. Gloire à Dieu.